Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et nous allons lire ensemble du verset 13 au verset 16. Nous lisons « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. Ce n'est pas la première fois que Jésus va se servir de petits enfants, d'enfants pour enseigner ses disciples, mais également tous ceux qui étaient autour de lui. On peut facilement comprendre, saisir pourquoi Jésus-Christ prend des enfants pour enseigner la simplicité des enfants. Dans un autre texte, nous pouvons lire, c'est dans Matthieu 18, il va amener un enfant et le placer au milieu de la foule, en disant « Mais si vous ne vous convertissez pas et devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas. » Il y avait là vraiment quelque chose qui était cher dans le cœur de notre Sauveur, dans le cœur de Jésus-Christ. Pour que nous puissions saisir que finalement, pour s'approcher de Dieu, il ne faut pas être sage, être intelligent, il ne faut pas avoir de force. C'est cela que nous fait penser les enfants. Les enfants sont fragiles, les enfants ne savent pas, ne peuvent pas s'appuyer sur eux-mêmes. Ils ont une inconscience par rapport au péché. Il y a là quelque chose vraiment qui nous parle. Et Jésus-Christ, dans ce texte, va reprendre ses disciples. Mais lorsqu'il va reprendre ses disciples, je pense qu'au travers de ce qu'il va dire, c'est un enseignement pour nous cet après-midi, parce que le Seigneur va dire deux mots qui m'ont frappé, qui ont frappé mon être. Il va dire « Mais laissez et ne les empêchez pas. Laissez. » Et ça montre que quelquefois dans notre vie, dans notre existence, il peut y avoir des choses qui nous empêchent. Il peut y avoir des choses qui sont là, qui nous bloquent lorsqu'on désire aller vers le Seigneur. On peut facilement imaginer que les enfants voyaient Jésus-Christ. On peut facilement imaginer la scène, il ne faut pas être un grand cinéaste pour ça. Mais alors que les enfants étaient tout prêts, ils ont failli être mis de côté par les disciples parce que peut-être ils étaient trop pris sur l'organisation, sur le contexte, sur ceci ou cela. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans le cœur de Jésus-Christ, il y a cette même pensée que nous retrouvons de la Genèse à l'Apocalypse, en tout cas au début du livre de l'Apocalypse, c'est cette pensée qu'il nous aime et qu'il ne veut pas qu'il y ait d'obstacle entre nous et lui. En tout cas, lui a tout fait, tout accompli. Lorsqu'il est venu sur la croix, c'est justement pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, pour que nous puissions aller à sa rencontre. Et c'est mon premier point, l'importance de comprendre, de saisir que pour venir à Christ, il faut laisser le monde. Il faut laisser le monde. Laissez venir à moi les petits-enfants. On pourrait traduire « laisser » par « ne pas résister ». Quitter, laisser quelqu'un ou ça peut symboliser, et vous le comprendrez parfaitement, la séparation d'une chose par rapport à une autre. En d'autres termes, on peut comprendre que on ne peut pas venir vers Christ si on ne laisse pas le monde, si on ne se sépare pas du monde, si dans notre esprit, dans notre cœur, il n'y a pas cette certitude que pour m'approcher de Jésus-Christ, il faut que je laisse ce sac à dos dans lequel sont chargées peut-être mes habitudes, dans lequel est chargé l'esprit de ce monde. Il peut y avoir des choses comme ça qui nous empêchent. Et alors que je méditais, ça m'a fait penser à un texte qu'on retrouve dans le livre de l'Exode. Et on va pouvoir le lire ensemble, si vous le voulez bien. C'est dans Exode chapitre 6. C'est très court, vous allez voir. Mais on retrouve exactement la même pensée. Nous lisons, Exode chapitre 6, verset 11, on peut même lire le verset 10, « Ainsi l'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Et dans ce verset, dans cette parole de Dieu, on pourrait dire qu'il y a le résumé de ce que doit être notre vie lorsqu'on veut s'approcher de Jésus-Christ, de laisser le pays d'Égypte et d'aller en dehors de l'Égypte. C'est cela, en tout cas, le message que Jésus-Christ voulait dire, mais laissez-les venir à moi, laissez venir ses enfants, mais cet après-midi, qui c'est qui a envie, qui ressent ce besoin de s'approcher de Jésus? Tout le monde veut que Jésus prie pour nous, tout le monde veut la bénédiction, et je pense que c'est normal, c'est bien, c'est légitime de vouloir être béni de Jésus-Christ, mais on ne peut pas venir... On ne peut pas rechercher la bénédiction si dans notre vie on est encore en Égypte, si dans notre vie on demande d'être libéré, mais on ne veut pas aller hors de l'Égypte, sortir de l'Égypte. On pourrait traduire Égypte, le mot, on pourrait comprendre cette signification et vous allez voir, c'est marquant. On pourrait comprendre Égypte par terre de dépression, état de siège, retranchement, enclos. Et bien entendu, pour ceux qui sont accoutumés à lire la parole de Dieu, vous savez que le peuple a été dans l'esclavage en Égypte, a été asservi. On pourrait traduire, mais le peuple était en terre de dépression. Le peuple était dans un pays, dans un état de siège. Il n'y avait pas la tranquillité. Mais cet après-midi, il y a ce mot qui doit être là, que j'aimerais que vous puissiez avoir sur votre cœur, cette invitation du Seigneur Jésus en disant « Mais laisse l'Égypte, laisse les choses qui t'empêchent de venir à moi, laisse les choses qui te retiennent en arrière. » Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est facile à dire, laisse la dépression par exemple. » On ne peut pas se convaincre soi-même. Mais je pense que ça en appelle à notre foi, à notre confiance. Ça en appelle à regarder à Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix et qui a tout accompli pour que dans notre existence, il y ait cette simplicité, simplicité d'action. Il est évident que nous avons des difficultés. Il est évident que lorsque le peuple d'Israël a vu ça, a compris ce qui les attendait, il y a eu une opposition. Pharaon ne les a pas laissés partir de suite. Il y avait là des luttes, des combats, mais il y avait là cette pensée. Il y avait là dans le cœur de Dieu des promesses. Avant, nous ne l'avons pas lu, mais regardez ce que Dieu va dire. Il va dire, mais j'ai entendu les gémissements. Je me suis souvenu de mon alliance. Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai à bras étendus. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit. Je vous ferai entrer dans le pays et je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. Et ces promesses ne sont pas simplement pour le peuple d'Israël, il y a de ça des centaines et des centaines d'années, mais je pense que ces promesses sont également pour nous, pour chacun d'entre nous, peut-être qui vivons des moments difficiles, peut-être que nous sommes là et nous avons envie d'aller vers Jésus, mais dans le texte que nous avons lu dans Marc, bien sûr, c'est les disciples, mais peut-être que c'est autre chose que les disciples qui nous empêchent d'aller vers Jésus. Peut-être cet après-midi, bon nombre d'entre vous sont venus peut-être chargés de soucis, de difficultés, en disant « mais je vois Jésus de loin, je le vois ». Je le vois, mais j'arrive pas à m'approcher de lui. Mais ces mêmes promesses qui étaient dans le cœur de Dieu sont dans le cœur de notre Sauveur aujourd'hui. J'ai entendu les souffrances. J'entends tes souffrances. J'entends tes difficultés. Mais c'est pas nous qui allons pouvoir nous affranchir, c'est Dieu. C'est pas nous qui allons pouvoir faire que nous allons pouvoir couper avec l'Égypte. Que nous allons pouvoir sortir de notre terre de dépression, que nous allons pouvoir sortir de notre misère spirituelle. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Jésus-Christ. Ça vient de lui parce que c'est lui qui a tout accompli. Peut-être vous allez me dire, mais ça fait longtemps que je prie, longtemps que j'attends la délivrance. Pour le peuple d'Israël, ça a duré 400 ans. Je ne dis pas que ça va durer 400 ans pour vous, vous comprenez? Mais il y a des temps qui nous échappent, des temps de Dieu. Mais vous savez, Ce que dit Pierre, alors vous allez me dire, mais c'est dans un autre contexte. Il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Bien sûr, c'est pour le salut de l'humanité. Bien sûr, c'est dans le cadre de ce verset-là, on peut le comprendre, c'est pour que le monde, l'humanité, entende le message de l'Évangile. Mais qu'en est-il de tes promesses? Crois-tu que Dieu t'a laissé de côté? Crois-tu que Dieu t'a abandonné? Crois-tu que peut-être le temps que tu as attendu, c'est trop long et que Dieu est là et il est passé à autre chose, à quelqu'un d'autre? L'amour de notre Sauveur est toujours le même. L'amour est là et il attend qu'une seule chose. C'est qu'on vienne vers lui pour qu'il puisse nous bénir. Il attend qu'on décide, qu'on prenne position de laisser le monde, de laisser ce qui nous retient en arrière, de laisser ce qui nous a servi, en disant « Mais Seigneur, moi je ne peux pas me sortir de là, mais toi tu le peux. Viens, viens dans ma vie, viens dans mon existence. » Et je peux vous le dire avec certitude que Jésus-Christ attend que ça, c'est qu'on puisse lui dire, mais viens, sauve-moi, secours-moi, je ne veux pas rester dans le pays d'Égypte. L'Éternel va dire à Pharaon, mais laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, parce que mon peuple n'est pas appelé à rester dans l'esclavage, parce que mon peuple n'est pas appelé à rester loin de Jésus-Christ, parce que mon peuple n'est pas appelé à vivre dans la difficulté, dans une souffrance qui les mène à l'angoisse, mais mon peuple est appelé à être pris dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, vous le croyez? Cet après-midi, c'est une réalité. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, alors que je pense qu'on est tous au clair qu'il faut qu'on laisse le monde, laisse l'Égypte, qu'on laisse ces choses pour que nous puissions nous approcher de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a autre chose. Parce que Jésus-Christ va dire « laissez-les et ne les empêchez pas ». Et alors que je méditais vraiment sur ce verset, sur ce texte, j'ai réfléchi. Et mon deuxième point, c'est l'importance de faire tomber les murailles qui nous empêchent d'être touché par Dieu. Parce qu'il peut y avoir des choses qui nous empêchent d'être touchés par Dieu. On peut être au clair cet après-midi, vous pouvez me dire, vous pouvez lever la main en disant « Mais Jonathan, mais c'est sûr, j'ai laissé le monde, c'est évident, je comprends l'importance de trouver auprès de notre Seigneur et Sauveur le pardon de mes péchés, je l'ai acquis, c'est compris, c'est ok. » Mais il peut y avoir d'autres choses qui nous empêchent d'être touchés par Dieu. Juste le verset d'avant dans Exode, il y a un exemple, et ça m'a vraiment frappé, de ce qui peut nous empêcher, et c'est un sous-point dans cette deuxième partie, ces choses qui nous empêchent d'écouter Dieu. C'est alors que Dieu va dire toutes les bénédictions, que Dieu va leur montrer, va leur comme résumer leur plan du salut, le plan pour qu'ils sortent d'Égypte. Il y a ce verset tout simple, mais qui montre ce qui peut nous empêcher d'entendre, de croire notre Sauveur, qui nous empêche d'accepter à la bénédiction de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit au verset 9, toujours de ce même chapitre 6, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. » Mais il est écrit « L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » L'angoisse et la dure servitude. D'autres versions vont dire, et je l'ai noté, « Ils n'écoutèrent point Moïse à cause de l'angoisse de leur esprit. » Une autre version va dire ceci, « Car ils étaient à bout de souffle. » Ils étaient à bout de souffle. Ils n'écoutèrent point à cause de leur extrême angoisse. Une autre version va dire par l'effet de leur impatience. Et toutes ces choses qui sont dans nos vies, toutes ces choses qui sont là, parce que je voulais résumer un petit peu, mais il y avait vraiment dans la pensée de Dieu cette bénédiction pour son peuple en disant « je vous sauverai, je vous sortirai ». Où on comprend bien que c'est Dieu qui va faire l'œuvre. On comprend bien que ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas du peuple, ça ne vient pas de vous ni de moi ce que Dieu peut faire, mais ça dépend uniquement de Dieu et de son amour. Et ça devrait nous rassurer cet après-midi. Lorsque Dieu étant nous montre son plan d'action, lorsqu'il est là dans notre vie, dans notre quotidien, où il s'adresse à nous avec tant d'amour en nous disant « Mais c'est pas toi qui vas pouvoir te sortir de tes difficultés, c'est moi. C'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre, ou c'est pas parce que tu es pire qu'un autre, mais c'est mon amour qui est agissant dans ta vie. C'est mon amour qui va faire la différence. C'est la foi que tu vas avoir en moi qui va faire la différence. » Et on peut avoir tellement de promesses en lisant la parole de Dieu, dans les moments de prière, dans les cultes, lorsqu'on est dans le moment de louange, Dieu peut mettre en nous des promesses, Dieu peut nous parler. Et combien de fois est-ce qu'on repart peut-être de ce lieu, ou chez nous, lorsqu'on a fini le moment de prière, on a fini peut-être notre lecture quotidienne, on ferme la parole de Dieu et tous les problèmes reviennent. Parce que l'angoisse est là. Et nous empêche d'être fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. La dure servitude, ce travail qui est là, qui prend tellement de temps, tellement d'énergie dans notre vie, qui nous fait perdre pied avec ce que le Seigneur voudrait pour nos vies, qui nous fait complètement dévier de notre voie, de notre route, de notre chemin, alors que, et je vais vous le répéter encore quelques fois à la suite pendant ce message, le désir de Jésus. Son désir, c'est qu'on puisse venir vers lui, qu'il prie pour nous. Parce qu'il y a un verset de l'Écriture qui nous dit que Jésus-Christ intercède pour nous. C'est dans son cœur, il n'est pas forcé de faire cela, il n'est pas obligé, mais c'est l'amour même qui émane de son être. Lorsqu'il s'est donné, lorsqu'il est descendu, lorsqu'il s'est dépouillé, il y avait ce même amour dans son cœur pour qu'on puisse recevoir le salut. Mais alors qu'il est remonté auprès du Père, est-ce que vous croyez que son amour a disparu? Est-ce que vous croyez qu'il a cessé de nous aimer au moment où il est retourné, qu'il s'est assis à la droite de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il a dit « Mais ça y est, j'ai accompli tout ce que je devais faire, alors maintenant, vous allez vous débrouiller tout seul, excusez-moi l'expression, mais il y a ce même amour qui est là. » Alors mon frère, ma sœur, cet après-midi, ne laissons pas des choses venir nous empêcher. Et dans ce premier point, ne laissons pas l'angoisse, la dure servitude, le travail, les difficultés, nous couper avec les bénédictions et les promesses de notre Dieu. Le deuxième point, le deuxième sous-point que j'aimerais partager, ces choses qui nous empêchent de bâtir pour Dieu, et on trouve ce verset, je le lis pour vous, dans Esdras chapitre 4, verset 4, il est écrit « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et le contexte, on ne peut pas tout voir, vous comprendrez que ça prendrait un peu plus de temps, mais il y avait là, le peuple était parti, c'était suite à une prophétie, le peuple s'était détourné des voies de Dieu, le peuple était parti, et Cyrus, à un moment donné, parce que c'était le temps de Dieu, proclame, autorise le peuple à rentrer à Jérusalem pour rebâtir le temple. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et le peuple se saisit de ces paroles en disant « Mais nous allons rentrer, nous allons bâtir le temple. » C'est l'image des chrétiens qui, après s'être éloignés, après avoir connu un temps difficile, après avoir connu des années peut-être difficiles suite à un éloignement, suite à des mauvaises décisions, ils vont se saisir de la parole de Dieu et dire « Mais il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, il y a ce zèle qui est là, qui revient parce que je me suis repenti, parce que j'ai voulu faire un demi-tour dans ma vie, je veux rentrer et bâtir un temple. Je veux rebâtir le temple dans ma vie pour Dieu. » Et alors que le peuple était tous unis, alors qu'il y avait là vraiment une unité, ils commençaient à travailler, ils commençaient à rebâtir. Les populations alentour se sont dit, mais on va les empêcher. On ne peut pas laisser le temple être rebâti. Et il y aura toujours des difficultés, peut-être ça concerne quelques personnes, une personne cet après-midi, qui après un temps d'égarement, tu décides, vous décidez de revenir à Dieu, de rebâtir le temple. Et il est écrit que les gens du pays vont décourager le peuple. Ils vont pas simplement venir se moquer, ils vont pas simplement venir là comme pour dire « mais ça sert à rien », ça va être insistant. Ça va être tous les jours, ça va être là comme quelque chose qui revient. Et petit à petit, ils vont arriver à cette finalité, c'est que le peuple va arrêter de bâtir le temple. Pourtant, le contexte de cette prophétie, c'était voulu de Dieu qu'il retourne pour bâtir le temple. Et vous connaissez tous ce verset, parce qu'on le cite tellement souvent, mais c'est dans ce cadre-là de cette prophétie que Jérémie va pouvoir dire, inspiré par l'Esprit de Dieu, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est dans ce contexte-là que Jérémie va pouvoir dire cela. Je connais les projets, je sais par où tu es passé, je sais les difficultés, mais regarde, j'ai tout préparé, j'ai tout planifié pour que ensemble nous puissions rebâtir le temple. Peut-être que tu as délaissé ta communion, peut-être que tu as délaissé la lecture de la parole, tu as délaissé ta piété, la sainteté dans ta vie. Peut-être qu'il y a eu un temps tellement difficile qui t'a empêché de rester attaché à Jésus-Christ, qui t'a empêché de toujours aller le voir lorsqu'il y avait des problèmes pour qu'il puisse te bénir. Parce que peut-être que tu as perdu de vue l'amour de notre Sauveur, de Jésus-Christ pour toi. Mais quand tu as voulu rebâtir, quand tu as voulu recommencer, lorsque tu as voulu te dire prendre position de nouveau, il y a eu comme le découragement, l'intimidation, des choses qui t'ont bloqué. On ne peut pas tout voir. Mais vous pouvez lire le prophète Agée qui, inspiré par Dieu, va parler au peuple en disant « Mais vous vous occupez de vos maisons, vous avez de belles demeures lambrissées, vos maisons se portent bien, mais vous avez délaissé mon temple. Revenez, revenez, bâtissez le temple. » Revenons ensemble pour bâtir le temple de Dieu, là où le Seigneur nous a placés sur notre lieu de travail. Faisons la différence. Si nous sommes étudiants là où Dieu nous a placés, faisons la différence. Rebâtissons le temple dans notre vie pour que les hommes, les femmes qui sont autour de nous puissent voir en nous une différence. Découragement, on pourrait traduire ce mot par « accorder une trêve ». Rester sans force, se relâcher. C'est comme si, à force de découragement, le peuple disait « Mais je vais m'accorder une trêve dans mon travail pour le Seigneur, je vais me relâcher. » Et intimidation, et vous allez voir peut-être là, vous allez voir où je vais en venir, on pourrait traduire par « être inquiet », « avoir peur », « être inquiet », « l'inquiétude ». Aïe, 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 l'inquiétude. Pourtant, on sait la fidélité de Dieu. Pourtant, pour faire le lien avec Marc chapitre 10, lorsque les enfants étaient là, prêts à aller dans les bras de Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, mais j'en suis persuadé, attendait qu'une chose, c'est que ses enfants viennent pour les bénir. Jésus-Christ n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne, c'est qu'on puisse garder et lui faire confiance tous les jours de notre vie, qu'on puisse être attaché à lui en disant « mais peu importe ce qui se passe, je ne veux pas sombrer dans le découragement, je ne veux pas faire une trêve dans ma vie spirituelle, je ne veux pas me relâcher dans ma vie spirituelle, je veux rester attaché à Jésus-Christ parce que je sais qu'il est avec moi, parce que je sais que c'est lui qui va me donner la force. » Mais l'inquiétude, Jésus-Christ va dire « Qui de vous, par ses inquiétudes, c'est dans Matthieu 6, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Un peu plus loin, il pourra dire, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne laissons pas l'inquiétude venir nous empêcher de bâtir l'autel de Dieu, de venir nous empêcher de rétablir notre relation, notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens de ce témoignage, je l'ai déjà raconté, mais il me revient sur le cœur, alors je vous le dis. Il y avait une famille qui connaissait des difficultés financières. Vraiment, ils vivaient des temps difficiles. Et la maman, comme à son habitude, après le repas, était dans la cuisine, faisait la vaisselle. Et vous savez, peut-être les sœurs se sentent peut-être plus concernées par ça. Alors qu'elle faisait la vaisselle, elle ressassait tous ses problèmes, toutes ses difficultés. Elle était là et je pense qu'elle devait y passer longtemps sur les assiettes parce qu'elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait. Et cette famille avait des enfants. Et leurs petits-enfants, je ne sais plus quel âge il avait, il était très jeune, 6 ans, 5 ans, 6 ans, rentrent dans la cuisine. Alors que vous vous doutez bien que, en tant que bon père et bonne mère de famille, bons parents, ils n'ont pas communiqué leurs soucis aux enfants. Cet enfant rentre dans la cuisine en disant « Mais maman, c'est qui le plus fort? C'est Jésus-Christ ou c'est la banque ?»« C'est Jésus-Christ ou c'est la banque ?» Et la maman, elle a arrêté de faire la vaisselle, elle a dit « Mais c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. » Il y aura toujours des peuples alentour, ceux que nous côtoyons, peut-être des personnes proches à notre travail qui vont essayer de nous décourager, de nous intimider. Ne perdons pas de vue que Jésus-Christ, lui, n'a pas changé. Ne perdons pas de vue que Jésus-Christ n'a pas diminué dans son amour. Que Jésus-Christ est toujours le même du premier jour de notre conversion jusqu'à aujourd'hui. Et il le sera encore demain, après-demain. C'est à nous de rester attachés à lui. C'est à nous d'enlever ce qui peut nous empêcher d'être bénis de lui. C'est à nous de laisser le monde. C'est à nous de prendre la place en disant « Mais peu importe ce que les autres vont dire, peu importe ce qui va être raconté, moi je veux aller dans cette même direction et dans cette seule direction, je veux aller vers Jésus-Christ pour qu'il me bénisse. » Et j'en viens à mon troisième point, après quoi je conclurai. La troisième chose que j'ai notée, il y en a sûrement plein d'autres dans la parole de Dieu, la troisième chose, c'est ce qui nous empêche de reconnaître Dieu. Et nous lisons cela dans Luc 24, je le lis pour vous, au verset 16. Il s'agit là des disciples d'Emmaüs, vous connaissez ce passage. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Luc 24, on est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. C'était un jour particulier. Jésus-Christ a été mort, Jésus-Christ a été crucifié, mis au tombeau, mais ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, pourtant deux disciples vont partir de Jérusalem en direction d'Emmaüs, comme pour dire, mais tout est fini, peut-être qu'ils n'avaient pas tout compris. Et ce jour-là, il va se passer quelque chose de particulier pour eux, c'est qu'alors qu'ils étaient en chemin, Jésus-Christ va faire un bout de chemin avec eux, c'est extraordinaire. Jésus-Christ va marcher, mais alors que Jésus-Christ marche avec eux, la Bible nous dit ceci, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourtant, Jésus-Christ était là. On ne peut pas dire qu'il n'était pas près de Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'il n'était pas dans une proximité avec Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible nous dit que leurs yeux, on pourrait traduire peut-être comme ça, je pense que vous serez d'accord, leur âme était empêchée de le reconnaître. Il ne s'agit pas de venir à l'église, il ne s'agit pas de peut-être avoir, se donner bonne conscience, en essayant d'être un bon religieux, quelqu'un de correct sous tout point de vue. Il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres pour accéder à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'être meilleur qu'un autre pour que nos yeux puissent être éclairés par Jésus-Christ. Vous savez ce que la Bible va nous dire, et c'est ce qui va tout changer dans leur vie. C'est ce qui va tout changer. Il va dire, mais pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Et dans quelques instants, nous allons prendre la Sainte Cène. Et c'est un moment tellement particulier. Et c'est un moment particulier pour nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, engagés dans les eaux du baptême, selon l'enseignement de la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous avons vécu ça? Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que quelqu'un. Ce n'est pas que nous faisions la différence. Ce qui va tout changer, c'est ce qui va tout changer pour ses disciples, c'est que leurs yeux vont s'ouvrir. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Nos yeux s'ouvrent que lorsque nous considérons Jésus-Christ mort sur la croix. Nos yeux s'ouvrent lorsque nous reconnaissons que Jésus-Christ a reçu des coups, que Jésus-Christ a souffert pour nous. C'est cela qui fait la différence dans notre vie. Et c'est cela qui nous permet de nous approcher de Jésus-Christ pour qu'il puisse nous bénir. C'est qu'on s'approche de celui qui a été rompu comme ce pain. Quelle signification lorsqu'il est là avec ses disciples, qui va prendre un morceau de pain et qui va le rompre devant eux, qu'il va déchirer ce pain, parce que alors qu'il déchire ce pain, c'est le symbole de sa vie qui a été déchirée pour nous, pour que nous puissions avoir cet accès, ce libre accès auprès de lui, que nous puissions rentrer dans une communion, dans une intimité avec Jésus-Christ, dans laquelle rien va nous empêcher. Rien va nous empêcher de pouvoir être là, proche de notre Sauveur Jésus-Christ. Monsieur Blanc, vous voulez bien choisir quelques frères? C'est un moment important, important pour nous, pour vous, qui allons prendre maintenant ce saint repas, parce que nous ne voulons pas prendre ce saint repas par habitude, prendre ce saint repas comme toutes les autres fois en disant « mais c'est comme ça, c'est l'habitude du dimanche ». On fait la Sainte Cène, non. C'est parce que le corps de Jésus-Christ a été rompu. Le corps a été déchiré pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être submergés de son amour, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie, pour que nous puissions, à l'image de ses enfants, je ne sais pas si on se rend compte, l'image de ses enfants, qui sont venus, qui ont été pris dans les bras de Jésus-Christ, de notre Sauveur. Et Jésus-Christ va les bénir. Et cet après-midi, Jésus-Christ veut nous bénir. Cet après-midi, Jésus-Christ voudrait nous dire, mais laisse ce qui t'empêche, laisse le monde. Règle les problèmes, règle ce qui t'empêche de venir dans ma présence. Règle ce qui t'empêche de venir pour être béni. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. On pourrait dire, et excusez-moi si je vais paraphraser la parole de Dieu, mais cet après-midi, on pourrait entendre la voix de Jésus qui nous dit, mais venez à moi vous qui êtes là, à 9 rue Saint-Guilhem. Venez dans ma présence, laissez le monde, venez dans ma présence. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants, ceux qui ont conscience que d'eux-mêmes ils ne pourront pas y arriver, ceux qui ont conscience qu'en eux il n'y a pas la solution, ceux qui ont conscience qu'ils ont besoin de Jésus-Christ pour répondre à leurs besoins, à leurs difficultés, pour avoir le pardon des péchés. Mais après, Jésus-Christ est là pour nous accompagner. Jésus-Christ n'a pas changé et il désire que nous puissions être là au bénéfice de sa grâce. Dans un autre texte, Jésus-Christ va dire en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut recevoir le royaume de Dieu. C'est là ce que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a donné à nous qui allons prendre ce saint repas et nous sommes bénis. Nous voulons le remercier. C'est pour cela que nous voulons vraiment rentrer en nous-mêmes, prendre ce saint repas, en nous considérant notre conscience, si nous sommes vraiment purs devant Dieu, et nous voulons le prendre dans la joie parce que c'est une bénédiction. Oui, nous, nous sommes nés de nouveau. Vous qui peut-être allez rester assis pendant ces instants, je pense que c'est un moment où vous pouvez considérer votre vie, réfléchir. Et c'est un moment qui nous est donné pour que peut-être vous, vous puissiez dire, « Mais Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, je veux laisser le monde et venir dans tes bras d'amour. » J'invite maintenant tous ceux et celles qui ont fait cette expérience, qui se sont engagés dans les eaux du baptême selon l'enseignement de la parole de Dieu, à se lever maintenant pour faciliter la distribution. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ces enseignements. Oui, nous voulons laisser le monde et nous avons été heureux de laisser le monde pour toi. Nous avons été heureux, nous ne voulons qu'il n'y ait rien qui nous empêche de venir dans ta présence cet après-midi. Merci de recevoir nos louanges, notre adoration, de nous recevoir dans ton intimité. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.